Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
We got trips right, 864, 8 Dragon. Rap, rap.
Six, round, Richmond, 96 double, 96 double. Richmond, Florida, Buffalo, 97 double. Hot, hot.
Right, empty backfield, shotgun Smith. Saints bring extra man out. He's going to boot to his left and run. He's going to run it 20, 15, 10, 5, touchdown. Do you believe it?
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 47 du podcast Jean Actu. Toujours très heureux de vous retrouver pour cette petite heure de NFL. Alain Mathey au micro pour vous accompagner. À mes côtés, il est toujours là, c'est Raphaël Masmejean. Salut Raphaël.
Salut à tous.
Camille est de retour cette semaine après une mission secrète. On avait mis une petite vidéo de sa mission secrète sur le site. Salut Camille.
Salut.
Il était dans la neige, en pleine course-poursuite avec des gens très méchants. Au programme, cette semaine, on connaît les deux qualifiés pour le Super Bowl. On va donc revenir en long, en large et en travers sur les finales de conférence. Après un petit détour par l'actu, pas de chronique histoire cette semaine, mais du coup, plus de temps pour vos questions. On va ensuite parler du Pro Bowl, mais pas de n'importe quel Pro Bowl, on va parler du Pro Bowl de la mort. On vous expliquera en deuxième partie d'émission ce que c'est, et puis on terminera avec un petit teasing sur le Super Bowl. 5 bonnes raisons de supporter les Ravens, 5 bonnes raisons de supporter les 49ers, ce sera en toute fin d'émission. Voilà pour le programme, on attache sa ceinture et c'est parti. Baltimore va à la Nouvelle-Orléans, Baltimore Ravens 28, New England Patriots 13, c'était la finale de conférence AFC et c'était la grosse cote de la semaine. Ray Lewis aura sa dernière danse au Super Bowl, c'est mérité parce qu'ils ont maîtrisé ce match.
Ouais, une maîtrise du match auquel on ne s'attendait pas forcément, voir les Patriots encaisser un 21-0 en seconde mi-temps. Finalement l'écart est assez énorme quand on prend comme ça, 28-13, il n'y a pas photo sur ce match. Et il y a rien à redire, l'attaque a très bien joué, la défense a muselé Tom Brady, match parfait quoi.
On l'a dit la semaine dernière, la clé c'était de stopper l'attaque des Patriots, ils l'ont fait. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Enfin, alors ce qu'on avait dit aussi, c'est que les Patriots, tu le sens vite quand ils sont pas dedans.
C'est vrai.
Et là, ça s'est vu tout de suite au début du match. Encore une fois, on vous raconte un peu les coulisses. Au début du match, j'ai envoyé un SMS à Raphaël disant ils sont pas dedans, c'est foutu.
Raphaël c'est vrai, m'a dit, je confirme.
Non, il est encore un peu tôt et tout ça. Et Tu vas voir. Et finalement, c'était ça. C'était un de leurs jours typiques de playoff où il n'y a rien qui rentre.
Ouais, il n'y a rien qui rentre. Tom Brady. Enfin, encore la première mi-temps, échappait un peu à ce truc. Ils sont devant en première mi-temps. On sent
qu'ils mettent que 3 points dans le premier quart.
Ouais,
c'est poussif.
C'est pas hyper énorme, mais on sent. Bon, si tu veux, comme les Ravens sont derrière, il n'y a pas de quoi non plus être trop inquiet. Mais ce qui a fait mal aussi dans ce premier quart, c'est la blessure d'Aqib Talib.
Qui fait
un peu plus mal sur la défense aérienne. Un peu après, il commençait bien son match. Il avait dévié une ou deux passes face à Anquan Boldin. Il était pas trop mal.
Non, c'est un des tournants. Enfin, c'est un des tournants de ce match aussi, ça c'est sûr, parce que ça tenait déjà pas à grand chose, cette défense aérienne des Patriots. Donc, forcément, ça fait mal. Mais, encore une fois, moi, j'ai trouvé que c'était tout de suite ce match des Patriots typique, où il n'y a pas d'élan offensif, où tu sens qu'ils sont en train de caler, tu sais que la défense, elle va se craquer petit à petit, et que du coup, comme l'attaque, elle suit pas, et ben voilà, ça ressemblait, et je crois que d'ailleurs, ça aussi, j'ai dû te l'envoyer par SMS, ça ressemblait à un des Super Bowls contre les Giants, quoi. C'est poussif, les autres en face attaquent plutôt bien en bouffant du chrono et en étant à peu près efficace au sol ou en aidant un peu à la passe.
Ils mettent la pression
sur Tom Brady, même s'ils l'ont pas saqué une seule fois.
Ils l'ont pas saqué, mais ils mettent la pression. Ils sont pas loin quand même. Voilà.
Ils mettent la pression. Voilà, ça ressemblait à ce match typique qu'ils font tous les ans en playoff pour se faire éliminer, qu'ils avaient fait contre les Jets en 2010, qu'ils ont fait contre les Giants en 2008 pour au Super Bowl et l'année dernière au Super Bowl. Ça ressemblait à tout ça. Donc, petit rappel des faits hein, quand même. Donc, début de match poussif, Ray Rice au sol pour le premier touchdown. Touchdown de Welker qui a encore droppé quelques passes qui ont fait mal. Donc, touchdown de Welker, nouveau field goal 13-7 pour les Patriots à la mi-temps. Mais premier point polémique pour moi, cette gestion des Patriots avant la mi-temps, qui est fautive et qui est aussi une des causes pour moi, qui est un des tournants aussi. Ils sont donc je crois à une vingtaine de secondes de la fin, Brady court 3 yards, il essaye de replacer sa ligne au lieu de prendre le temps mort.
Ouais.
Il restait une quinzaine de secondes, hein. S'il prend le temps mort tout de suite, il reste une quinzaine de secondes. Ils avaient le temps de lancer 2 ballons vers la end zone et d'essayer d'arracher un touchdown, ils doivent être sur la ligne des 10 yards adverses ou quelque chose comme ça. Et voilà, inexplicable quoi. Il finit cette action, il se relève alors qu'il a couru, il court vers la ligne, il fait signe de la lancer, de la mettre par terre pour couper le chrono. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Voilà, parce que s'il prend le temps mort, au pire il loupe ses passes, le chrono s'arrête. Donc pourquoi il prend pas ce temps mort ?
Non.
C'est la preuve que voilà, il y a pas d'élan qui a été pris. C'est la preuve aussi que Bill Belichick. Alors, en début de match, pourtant, avec cette petite feinte de punt là, avec Ryan Mallett qui a mis un peu la pagaille, etc., je me suis dit, ça y est, on a le bon Belichick des bons jours, celui qui prend des initiatives, des trucs comme ça. Et au final, il a fini par se refaire manger au niveau coaching. Et ça, c'est une erreur, pour moi, grossière. Cette gestion du chrono avant la mi-temps est grossière.
Ah, je sais pas, je sais pas. Enfin,
parce que s'ils mettent un touchdown là, ils se relancent.
Ouais, mais s'ils le mettent pas, ils sont devant au score. C'est un risque pris. Si tu le mets pas, tu te fais intercepter. Je sais pas, imagine.
C'est comme Peyton Manning la semaine dernière. Tu joues avec Tom Brady.
Ouais, mais la différence, c'est que Peyton Manning, à ce moment-là, son équipe mène plus. Ils sont à égalité. Donc.
Ouais, mais c'est les playoffs. On parle de Bill Belichick, le mec qui jouait des 4e et 2 dans son terrain. Quoi. S'il va pas chercher un touchdown là, il va jamais le chercher.
Je suis pas spécialement convaincu par.
Pour moi, c'est une erreur, mais monstrueuse. Après la deuxième mi-temps, 0 points pour les Patriots. Touchdown de Pita pour repasser devant. 14-13. Boldin donne 8 points d'avance sur un touchdown. Et puis, alors, ce qui est pour moi le tournant du match, le fumble de Steven Ridley.
Forcément.
Qui est vraiment, qui tue le dernier effort des Patriots, qui était en train d'essayer de revenir. Donc, avec 8 points de retard, qui était un touchdown avec conversion à 2 points. Et donc, Steven Ridley, tête la première, je crois que c'était Dashaun Goldson Bernard Pollard, donc le tueur de Patriots officiel. Donc, Bernard Pollard, fumble.
Ouais.
Et c'est le tournant du match parce que ça les empêche de reprendre de l'élan et derrière, ils prennent le touchdown.
Effectivement, c'est d'autant plus que l'attitude de Steven Ridley est quand même bizarre. Pourquoi il fonce tête la première contre le casque de Bernard Pollard?
C'est pas évident, ça va très vite. Je pense que c'est des actions qui vont très vite, donc c'est pas évident. Peut-être que lui dit je vais baisser les trucs, il pense peut-être que le gars va pas se baisser aussi vite et qu'il allait lui passer dessus avec l'épaule. Enfin, c'est pas évident à cette vitesse-là de voir que le gars va baisser la tête. Alors, pour répondre d'ailleurs aux gens, excuse-moi de t'interrompre, il y a beaucoup de gens qui ont posé la question dans les commentaires du site, pourquoi il n'y avait pas de sanction sur cette action-là. Le fait est qu'en fait, il n'était pas sans défense. Ridley avait le ballon et il était en position où il savait plus ou moins ce qu'il faisait. Donc, en fait, les chocs casse contre casse sont sanctionnés quand la personne qui a le ballon est sans défense. C'est-à-dire un receveur qui vient juste de le capter et qui n'a pas eu le temps de remettre ses pieds au sol. Ou alors, je crois, les quarterbacks, quand ils viennent de lancer, par exemple, parce qu'ils sont considérés comme sans défense, ils peuvent pas, par exemple, avancer d'eux-mêmes ou éviter le choc, ou ils peuvent rien faire. Là, étant donné qu'il avait le ballon, c'est un coureur et il n'y a pas de pénalité dans ces moments-là.
Ouais. Non, mais c'était ça que je voulais dire, c'était normal qu'il y avait. Parce que, pareil, sur le forum, il y avait des gens qui demandaient pourquoi il n'y avait pas eu de. de pénalité, mais enfin l'action est logique, enfin elle est bien exécutée par Bernard Pollard qui a ce titre de casseur de Patriots.
Ah bah là
bien
c'est
amusant.
Alors
enfin,
on rappelle les faits
amusant
pour,
quand même.
On rappelle les faits pour ceux qui suivent la NFL depuis peu de temps. Bernard Pollard en 2008 est tombé sur le genou de Tom Brady. À l'époque Pollard jouait avec les Chiefs, c'était le premier match de la saison, 6 minutes jouées et donc il déchire les ligaments du genou de Tom Brady, saison terminée pour Tom Brady. La saison suivante, dernier match de la saison régulière, les Patriots sont déjà qualifiés pour les playoffs, ils n'ont plus rien à jouer, et donc ce bon vieux Bernard Pollard qui jouait à l'époque avec les Texans tombe sur le genou de Wes Welker, lui déchire les ligaments, le prive de playoffs, et donc lui donne des vacances un peu compliquées. L'année dernière, l'ami Bernard Pollard joue avec les Ravens en finale de conférence, il tombe sur la jambe de Rob Gronkowski, lui tord la cheville et le rend diminué pour le Super Bowl. Clairement c'était pas le même, et donc quatrième à son tableau de chasse, Steven Ridley, donc quatrième Patriots qui sort d'un match avec trois équipes différentes. C'était quand même c'est quand même une réputation assez assez
sympa,
étrange,
ouais.
Et donc après c'est lui qui demande à ce que Tom Brady soit sanctionné pour sa glissade.
Ouais,
PLV,
mais cela dit je trouve qu'il a raison.
Alors après je suis d'accord avec lui, parce que il y a aucun moment où Tom Brady doit glisser avec le pied si haut, quoi. C'est ridicule.
Cette glissade est quand même bizarre, surtout que Tom Brady, c'est normal, il faut qu'il glisse les deux pieds vers l'avant.
D'ailleurs, cette glissade, je me demande si c'est pas la glissade qui a lieu juste avant la mi-temps. Enfin, sur une des petites courses de Tom Brady.
Ouais, possible, ouais.
Donc on rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, Tom Brady glisse sur une course en avant, comme font tous les quarterbacks pour finir. On n'a pas le droit de les plaquer à ce moment-là. Et il lève sa jambe façon karatéka jusqu'à la jambe de Ed Reed qui passait au-dessus.
Pas terrible, ouais.
Ce qui était quand même, honnêtement, il a aucun intérêt à faire ça. Je vois pas en quoi ça le protège, parce qu'en plus, ça peut lui de la jambe à lui aussi.
Ouais,
donc je vois pas en quoi ça le protège, je vois pas, enfin ça a aucun intérêt. Donc c'était vraiment très limite comme geste. Est-ce que c'est volontaire, est-ce que ça l'est pas, c'est toujours sujet à débat, on peut jamais savoir.
Oui.
Mais en tout cas, c'était pas franchement évident et très très intelligent non plus, quoi. Il aurait pu garder la jambe en bas. Est-ce qu'il a glissé dans l'élan, j'en sais rien, mais ça paraissait quand même hyper exagéré,
ouais,
pour une glissade dans l'élan quand même. Elle est remontée très haute. Bon, on l'a dit donc pour les Patriots, c'est perdu, Tom Brady pas top. Alors pour finir sur Tom Brady d'ailleurs, je l'ai déjà dit pendant l'année, ça avait été un de mes coups de gueule, ça avait pas forcément plu, mais encore une fois, le Tom Brady décisif des années Super Bowl, il est plus là, je suis désolé. Il n'y a pas un moment où on s'est dit en regardant cette équipe qu'il pouvait sortir de ce trou.
Non, face aux Ravens là c'est...
Il n'y a pas un moment où Tom Brady avait l'air bon, avait l'air tranchant et avait l'air où on s'est dit voilà, bon, il peut faire remonter son équipe, il peut... Je suis désolé, Tom Brady est plus le Tom Brady décisif qui a gagné des Super Bowls. Il a gagné les 10 premiers matchs de sa carrière en playoff, dont 3 Super Bowls. Depuis, il est à 7 victoires et 7 défaites. Et des défaites qui se ressemblent tous les ans. Il y a 6 matchs avec plusieurs interceptions sur les 7 défaites d'ailleurs.
Mmh.
Et c'est toujours les mêmes matchs, voilà, où c'est pas évident. Et je pense que c'est plus... Alors, avant, et peut-être la grosse différence, c'est ça aussi. Quand il gagne ses 10 premiers matchs de playoff, on lui demande pas de les gagner tout seul. Il y a une défense, il y a un jeu
défense,
au sol,
ouais.
Il y a une équipe autour de lui. Depuis, on lui demande de gagner tout seul. Donc forcément, il est plus mis en valeur. Et quand il est moins bon, ça se voit tout de suite. Parce que sur les 10 premiers matchs de playoff qu'il gagne, il n'est pas parfait dans les 10 non plus. Mais voilà, maintenant, on lui demande de gagner tout seul. Donc c'est pas totalement de sa faute. J'ai rien contre lui personnellement. Mais le fait est que il est moins souvent aussi mis dans les conditions pour être décisif. Parce que justement, sa défense tient plus les matchs, etc. Mais il y a pas ce côté clutch, ce côté... énervé, ce côté on sent que voilà, ça peut remonter à tout moment. Et l'image de Tom Brady en playoff ces dernières années, c'est Tom Brady assis par terre, les bras le long du corps et avec l'air dépité.
Ah oui, non,
malheureusement c'est ça.
C'est vrai.
Et alors je te demande ce que t'en penses, est-ce que toi tu penses que ça atteint un peu sa légende, justement, qui était parti sur des bases phénoménales avec ces trois Super Bowls, et au final ils n'en ont pas gagné un depuis 8 ans, même s'ils sont tout le temps en playoff. Alors c'est aussi le contrebalancé. On peut dire ils sont hyper réguliers en playoff, mais ils gagnent plus.
Ça, je sais pas si ça termine sa légende, parce que on se souviendra surtout des 3 Super Bowls gagnés plus que les saisons d'après où il allait en playoff. On sait que c'est très difficile quand même en NFL de remporter le Super Bowl. Maintenant, sur le temps présent, là je pense que ça termine plus l'idée qu'on se fait que les Patriots peuvent à nouveau regagner un titre, parce que on commence... Bah finalement, est-ce qu'il est pas un peu en train de devenir une espèce de Peyton Manning des playoffs, qui conduit super bien son équipe en saison régulière et qui en playoffs va...
Moi, disons que c'est ce que j'avais redit encore une fois pendant l'année, c'est-à-dire que s'ils veulent regagner des Super Bowls avec lui, il faut renforcer cette défense. Il faut l'entourer, il faut mettre moins de pression sur lui, parce qu'il a 36 ans ou 35 ans, et il ne peut pas gagner tout seul, c'est impossible. Mais que ce soit lui ou n'importe quel autre, regarde la défense des Ravens, regarde la défense des 49ers, ils sont au Super Bowl.
C'est vrai.
Il faut avoir des gens autour du quarterback. La preuve, on n'a pas un élite quarterback aujourd'hui au Super Bowl. Donc, on en débattra. mais voilà, pour moi, il faut l'entourer. Ils peuvent encore en gagner, mais il faut qu'il y ait moins de pression sur lui. Après, moi, honnêtement, je trouve que ça atteint un peu au sens qu'on gardera toujours à l'esprit que Montana, c'est 4 Super Bowl joués. 4 Super Bowl gagnés.
Ouais.
Et Brady, en playoff, il y a eu des échecs.
C'est vrai,
Montana
c'est vrai.
A pas été parfait en playoff non plus, il en a perdu.
Oui, deux fois,
mais c'est 4 sur 4 au Super Bowl.
Cette façon,
Brady, c'est
3 stat.
Et 2 perdus. Et voilà. Et des matchs, des mauvais matchs, qui ont coûté des victoires à son équipe. Et le 0 point en deuxième mi-temps, il est indigne.
Ah, ça, voilà, ouais, c'est surtout ça le problème, c'est de pas être capable d'obtenir un field goal, ne serait-ce, tu vois. Enfin,
c'est ça. Il doit mettre plus de 13
l'équipe
points.
L'équipe n'y était plus, quoi. C'est vrai que c'est assez.
Et c'est ça, moi, ce qui m'a embêté, c'est qu'on sentait qu'il y avait pas de vie, quoi. On sentait pas cette révolte ou qu'il pouvait y avoir de la vie. Bon, encore une fois, les choix de Belichick aussi ont été limites. Alors, il y a ses quatrièmes tentatives qu'il a laissées pour punter. Alors, on sait qu'il y avait beaucoup de vent hein, ce jour-là. Alors, ces punts sur quatrième tentative en terrain adverse, est-ce que tu aurais joué la quatrième, par exemple, quand c'est une quatrième et 8 sur les 35 yards adverses?
Je sais pas, c'est dur à dire sur le moment. Je sais pas.
Mais ça pose des questions, parce qu'ils pouvaient les tenter.
Après, c'est discutable, quoi.
Ils pouvaient les tenter quand t'as un Brady. Quand t'as un Brady, tu peux tenter une 4ème et 5 ou une 4ème et 8, même si c'est pas facile. Mais t'as Brady, t'as Hernandez, t'as Welker, t'as Lloyd. Peut-être en tenter une de temps en temps, même s'il y a trop de vent pour tenter le coup de pied. Bon, après, bon, quand tu mènes, pourquoi pas? Tu prends pas de risque, tu les mets loin dans leur terrain, pourquoi pas? Mais après, ça pose des questions sur Belichick aussi. Est-ce que, quand on voit justement les Harbaugh, qui ont cette énergie, qui ont ces choses comme ça. Est-ce que le message Belichick passe toujours? Est-ce que... alors, ces joueurs le respectent énormément,
ouais, ça,
c'est un grand coach, etc.
De...
Mais justement, est-ce qu'il lui manque pas cet enthousiasme et cette audace qu'ont maintenant certains autres jeunes coachs qu'il avait, lui, à l'époque où il gagnait aussi? Quand il tente des feintes de field goal en playoff, des choses comme ça.
C'est vrai.
On voit plus ça.
Plus à ce... un peu le... Certains le qualifient un peu de tricheur avec des trick plays un peu qu'il faisait à une époque. C'est vrai qu'il le fait plus vraiment. Je sais pas, c'est dur à dire.
Allez, on va être plus positif. Honneur aux vainqueurs, les Ravens ont fait ce qu'il fallait, on l'a dit, en défense. Et Joe Flacco, qui vient probablement de mettre la main sur un petit chèque.
Ah, je pense que là, donc il y a un 0 de plus. Et si jamais il y a le Super Bowl remporté, il y aura peut-être encore un.
Ça va commencer à banquer. 21 sur 36, 240 yards, 3 touchdowns pour Joe Flacco. Hyper propre.
Ouais, pas de fumble, pas d'interception, vraiment un match. Il a su profiter des lacunes de cette défense. Bien évidemment, c'était pas la plus grosse défense qu'il pouvait y avoir face à lui, mais il a vraiment fait ce qu'on attendait de sa part. Et donc,
alors, j'ai une question pour toi qui est un spécialiste et que j'ai entendu ailleurs. Est-ce que on n'est pas en train d'assister à la naissance d'un Eli Bis? C'est-à-dire Captain Clutch en playoff, un peu sans être exceptionnel en saison régulière, même si Eli a fait une bonne saison l'an dernier.
Écoute, c'est pas impossible, d'autant plus que lui aussi il gagne énormément à l'extérieur. On voit que jouer à l'extérieur, c'est vraiment pas un problème pour Flacco.
6 victoires à l'extérieur en playoff, 50 carrières, c'est déjà le record NFL.
Alors, il a l'avantage, bien évidemment, il est pas tout seul dans son équipe. Il gagne aussi parce qu'il a une défense énorme, parce qu'il a un très bon jeu au sol.
Oui,
mais effectivement, il est capable de sortir au moment les plus importants les prestations qui comptent.
Alors, c'est vrai que quand tu le regardes, t'as l'impression qu'il sait que lancer loin d'ailleurs.
Ouais,
tu sais, quand tu regardes Flacco, t'as l'impression qu'il lance que loin tout le temps.
Ouais, bah écoute.
Non, mais c'est bien, ça marche,
hein, c'est ça. Écoute.
Mais par exemple, sa deuxième passe de Jean à Boldin est parfaite.
Ouais.
Elle est mise que là où Boldin peut l'attraper.
C'est vrai.
Et elle est vraiment magnifique. Et moi, ce qui me plaît chez lui en playoff, c'est que depuis le début de l'année là, c'est 8 touchdowns et 0 interception. Il est ultra propre.
Ah oui, non.
C'est-à-dire qu'il fait pas perdre son équipe.
Il est en train de faire des playoffs comme celle d'Eli Manning l'année dernière, des playoffs très très propres. Pareil, Eli Manning avait fait, je crois, 9 touchdowns pour une interception l'an dernier en playoff. C'est très propre et c'est surtout que son équipe a toujours espoir en lui dans les derniers moments, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est capable d'aller chercher sur une passe désespérée à la fin. On a vraiment l'impression que ça peut arriver.
C'est le contrôle des Broncos au tour d'avant était quand même assez énorme quoi, au niveau du lancer. Non, franchement, solide en playoff, il fait pas perdre son équipe. Maintenant, il a fait même gagner, donc il est vraiment en train de mettre la main dessus petit à petit. On espère que ça se prolongera sur la saison prochaine et justement.
Ray Lewis disait qu'il est devenu le général,
mais voilà, il est en train
état d'esprit aussi.
Petite question express d'ailleurs. Tu prends lui ou Matt Ryan maintenant en playoff pour diriger ton équipe?
Ouais,
ils sont de la même année de draft,
on
rappelle.
Je sais pas, c'est dur à dire comme ça.
Parce qu'au final, Flacco, il te fait gagner en playoff.
C'est vrai, Flacco fait gagner en playoff. Faut voir, c'est difficile de juger par
bon,
rapport
clairement, à... les Ravens sont la belle histoire de ces playoffs maintenant. Ils sont en mission Ray Lewis en annonçant sa retraite, leur a mis le feu. Ils ont l'expérience, ils arriveront en outsider au Super Bowl. Contre qui? On en parle juste après.
Down and four. Ryan. Pass is broken up. There are no flags. And the 49ers will take over up by four.
Les Falcons keep on falling, ils continuent à tomber malheureusement pour eux. 24 pour les Falcons, 28 pour les 49ers. La semaine dernière, les Falcons ont construit une avance, ont été remontés, ils ont fini par gagner. Cette semaine, les Falcons ont construit une avance, ils se sont fait remonter et ils n'ont pas gagné. Incroyable à quel point cette équipe n'arrive pas à finir les matchs.
Ouais, d'ailleurs, c'est peut-être le premier point. Il faut parler forcément dans ces cas-là, à mon avis, du coach, Mike Smith. Ça fait deux matchs de suite qu'on voit que son équipe a une énorme avance et c'est pas possible qu'il n'arrive pas à garder ses joueurs concentrés sur le terrain, que ce soit en attaque ou en défense. Moi je pense que là, à partir de ce moment-là, ça vient aussi du coaching. Les joueurs ne peuvent pas être plus responsables. Je sais pas, il y a un problème. Il n'arrive pas à garder ses joueurs en alerte. Il n'arrive pas à garder les bons schémas de jeu. Enfin, pour moi, il y a un problème avec Mike Smith là, quand même, pour le coup.
Ouais, il y a un petit peu de ça. Bon, après, est-ce qu'il y a des joueurs aussi? C'est toujours dur à définir l'influence du coaching. Mais c'est vrai que c'est incroyable parce que le début de match est parfait. Le début de match des Falcons est parfait. Touchdown, field goal, touchdown, 2-3 and out. Donc provoqué par la défense rapidement. 17-0 après un quart temps et demi. C'était mais parfait.
Mais oui, c'est ça.
On se dit à ce moment-là.
Ça va dérouler tout seul. Quoi,
on se dit, ça va dérouler. Ils ont passé le cap. Leur victoire de la semaine dernière, c'était du bon. Ils ont réussi à se lâcher. Mmh. Et maintenant, ils n'ont plus peur, etc. Et puis, ils se liquifient encore une fois. La défense ne sait plus comment plaquer, l'attaque ne sait plus comment avancer. Ouais, le jeu au sol est annihilé. Turner se blesse, ça arrange rien. Donc voilà, les Niners reviennent, passent devant. Les Falcons ont eu un drive pour gagner. Matt Ryan manque la 4ème et 4 que vous venez d'entendre dans le jingle à un peu plus d'une minute de la fin. Alors, quelqu'un dans les commentaires du site a dit que les Falcons ont perdu ce match plus que les Falcons l'ont gagné.
Plus que les 49ers.
Que les 49ers l'ont gagné, pardon. Est-ce que tu penses qu'il y a du vrai là-dedans?
Ben, je suis un peu d'accord avec ça. À partir du moment où tu mènes 17-0, c'est une avance que non, tu dois pas perdre. Tu dois te contenter, même si t'arrives pas à trouver des touchdowns, au moins d'empiler les field goals qui continuent à faire un peu augmenter l'avance, à garder une petite marge. Ouais, moi je pense qu'effectivement, sans renier les qualités des 49ers qui sont énormes, on va en reparler, qui ont vraiment des qualités de tous les côtés du ballon. Mais je pense que les Falcons avaient vraiment la main sur ce match. Leurs receveurs se baladaient pendant toute une...
Alors, Julio Jones, c'est monstrueux
il
sur le début
de match. Il s'est
baladé,
le type. Et je comprends pas qu'avec un receveur qui se baladait autant, ils aient pas continué à maintenir ce match. Quoi.
Alors, pour une fois, c'est moi qui vais plaider la cause des supporters des 49ers. Alors, je pense pas qu'on puisse réduire ça quand même totalement à un écroulement des Falcons.
Non, fallait
avoir le moral pour remonter quand t'es mené 17 points en finale de conférence, justement après un début de match aussi parfait en face. Faut quand même donner ça aux 49ers avec un quarterback qui débutait son 7ème match en carrière, qui lui donc aussi a des nerfs d'acier. Ça, c'est assez énorme. Forcément, les autres s'écroulent, mais faut aussi en profiter. Ils l'ont super bien fait. La Michael James au sol, donc, a marqué le premier. Vernon Davis ensuite. Deux touchdowns de Frank Gore pour tuer le match, hein, on rappelle. Et donc, les Falcons qui n'ont pas réussi à conclure sur leur dernier drive. Premier honneur pour moi, Vernon Davis. 5 réceptions, 106 yards, un touchdown. Il avait que 7 réceptions sur les 7 derniers matchs. Et là, il a montré que c'est toujours un des meilleurs tight ends de la ligue.
Ouais, c'est un des meilleurs tight ends de la ligue, mais justement, les Falcons avaient peut-être un peu oublié aussi Davis par rapport au dernier match. C'était moins une cible menaçante.
Ils avaient déjà du mal à défendre les tight ends parce que Miller s'était régalé
avec
des
Seahawks.
C'est vrai que Miller
s'était régalé. Donc Ouais, bah c'est ça. Leur ligne, ils ont plus de mal à défendre au milieu terrain face aux.
D'ailleurs, c'était peut-être intelligemment joué des Falcons d'appuyer sur le tight end à nouveau.
Oui, bah, sûrement.
Après avoir vu ce qu'ils ont vu la semaine dernière. Mais c'est vrai que, bon, moi je suis content pour ce joueur qui est quand même bourré de talent et qui a pas été très exploité cette année. Alors, bon, Alex Smith l'aimait bien. Kaepernick, justement, lançait plus loin et avait moins besoin de lui en soupape de sécurité régulièrement. Donc, c'est vrai que ça l'a un peu desservi.
Ah ouais,
mais là, il fait un superbe match et vraiment, il est décisif aussi dans cette remontée parce qu'il a donné une impulsion assez énorme. Colin Kaepernick, justement, 16 sur 21, 233 yards, un touchdown, propre.
Ouais, propre, c'est le mot. Il a beaucoup moins couru que...
Deux fois seulement, ouais.
Ouais, c'est ça. Il était bien bloqué. C'est peut-être... En plus, c'est ce que défendaient bien les Falcons au début de match. Il l'empêchait vraiment de sortir de la poche et de... ils arrivaient bien à lire.
Mais au final, justement... Mais peut-être c'est ça l'avantage aussi de Kaepernick, c'est que ça, rien que sa présence ouvre, ouvre un peu de champ à ses coureurs. Même si, rien que le danger que lui puisse courir, ça oblige la défense
à... Non, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que pour les 49ers, ils peuvent gagner un match avec Kaepernick qui fait que deux courses. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. On pensait qu'il était capable de le faire, mais on avait jusque-là, on l'avait vu énormément courir, gagner beaucoup de yards à la course, ce qui aidait forcément l'équipe. Là, juste en passant, ça fait gagner l'équipe. Et il est très propre, comme tu l'as dit, pas d'interception, pas de fumble.
Non, pas qu'il est... si un fumble perdu.
Ah.
Non, pardon, c'est Crabtree qui le perd. C'est Crabtree qui perd le fumble. Donc... Mais d'ailleurs, d'autant plus au niveau du mental des 49ers, parce qu'après ce fumble perdu de Crabtree, ils étaient dans un élan où ils remontaient,
etc.
C'est
devant la end zone.
Voilà, juste devant la end zone. Les autres récupèrent le ballon à ce moment-là et on se dit justement, mince, ils ont laissé passer une occasion, ils stoppent, ils remettent le touchdown derrière et ils mettent le pied sur le match.
Alors, peut-être un peu en tournant, c'est aussi que les Falcons n'arrivent pas, parce qu'à mon avis, si après ce fumble, devant la end zone, ils arrivent à en mettre un eux, ça, je pense que c'est le genre de truc qui coulait les 49ers.
Mais la défense a tout de suite repris, ils ont tout de suite acculé dans la end zone. C'était vraiment, voilà, c'était maîtrisé. Eux, justement, alors même quand ils étaient derrière, il y a un moment où on a dit ok, ils ont remis le pied sur le match.
C'est vrai.
Et ça y est, ils sont là et ils vont être très durs à arrêter. Et c'est pour ça que faut quand même leur rendre ça, je trouve, parce qu'ils ont été impressionnants à ce moment-là. Ils ont eu justement cette présence qui faisait qu'à un moment du match, t'as dit ok, mince pour les Falcons, mais les 49ers, ils sont là, ils ont mis le pied et ça va être dur de les retirer, quoi. Parce que les Falcons, eux, justement, ont jamais eu le... On n'a jamais senti qu'il pouvait faire ça. On ne l'avait déjà pas senti contre les Seahawks et ils s'en étaient sortis in extremis. Et on l'avait dit la semaine dernière. Ils ne peuvent pas faire la même chose contre les 49ers parce que les 49ers ne leur laisseront pas le match à la fin. Et voilà. Bon, ils ont vraiment été très bons. Non, mais ils ont vraiment été très bons là-dessus, je trouve, cette capacité à mettre la main sur le match. Voilà. Alors, à Atlanta, on va chercher un peu à pointer des doigts. J'ai été un peu dur avec Matt Ryan dans le résumé du match. Je l'ai mis en flop de ce match. Ça a été dur parce qu'il fait quand même une bonne rencontre. 30 sur 42, 396 yards, 3 touchdowns, une interception contre la défense des 49ers. Je pense qu'il y a pas mal de quarterbacks qui signent. Donc sur la feuille de stats, contre la défense des Niners, c'est pas mal. Il est bien aidé par un Julio Jones qui est monumental. Mais
il fait aussi un fumble qui coûte cher.
Mais voilà, alors le problème c'est ça. C'est ce fumble perdu. Je parle pas de l'interception parce que White glisse un peu. Bon, pourquoi pas, ça peut arriver. Le fumble est sur lui. Le snap est propre. Le ballon lui arrive dans les mains. Il le tremble, il tombe. Et il fait hyper mal, son équipe menait 24-17, ils étaient en terrain adverse, ils avaient besoin de points justement pour mettre ce pied sur le match, et ils le font pas, et donc on en revient à cette histoire de killer instinct. À ce moment là ils doivent les tuer, ils doivent faire comme Flacco sur ce qu'on dit avec Boldin, où ils trouvent cette passe millimétrée pour Boldin, lui il le fait pas, et bah voilà, gagner des matchs sur les derniers drives c'est cool, c'est génial, ils font ça souvent, les Falcons ils aiment bien, mais parfois faut mettre le pied avant, ils ont pas besoin d'aller jusqu'au dernier drive, et ça ils savent pas le faire malheureusement. Ils ont pas, pas ce qu'ils ont instinct.
Mais justement, ils l'ont pas encore. Ils savent pas le faire parce que il y a le problème que quand ils mènent, ça s'écroule de toutes parts. L'attaque se repose sur ses lauriers et la défense encore plus.
La défense a été affreuse encore une fois.
Enfin, la défense au début elle maîtrisait vraiment tout et puis les courses de Frank Gore en deuxième mi-temps, Frank Gore il avançait vers le milieu du terrain et c'est comme si les mecs ne savaient plus plaquer en face, quoi. Genre on le laissait passer et puis oh bah tiens, il vient de gagner 10 yards, on va peut-être le plaquer.
C'était assez aberrant à ce niveau-là. Un mot sur Tony Gonzalez, 8 réceptions, 78 yards, un touchdown, proche de la retraite. On sait pas encore s'il va le faire. 36 ans, il a l'air d'en être proche.
Maintenant, il domine encore tellement chez les Titans que je me dis pourquoi une saison de plus, c'est pas improbable.
Il était impressionnant.
Ouais, c'est ça.
Il est vraiment impressionnant pour son âge.
Bon, il fait une super réception de touchdown. Mais...
Ouais, non, il est. Pour un tight end de 36 ans qui est censé prendre sa retraite, il est impressionnant. Ouais, il capte tout ce qui vient vers lui et vraiment, il est très très fort. Bon, moi je trouve que c'est bien de partir en laissant une bonne image, c'est-à-dire que il fait
il
pas la saison.
Il gagner en play-off.
Voilà, moi, il ferait pas la saison de trop. On partirait justement sur cette image qu'il pouvait encore dominer, etc. Bon, faut voir. On s'est dit la même chose l'an dernier quand il a dit qu'il revenait. Ouais. Est-ce que c'est pas la saison de trop? Est-ce qu'il va être encore moins machin? Bon, et puis au final, il fait une super
saison.
De
toute façon, je crois vraiment, pour le coup, il y a que lui qui peut savoir.
Donc voilà, on va attendre de voir ce qu'il dit. Ouais. Dans tous les cas, je pense qu'on sera content pour lui.
Oui, oui.
Je pense que c'est le plus simple. Et puis pour Atlanta, bah, la même histoire l'an prochain, c'est-à-dire qu'on attendra les playoffs pour voir.
C'est ça, parce qu'ils domineront encore en saison régulière, il y a les armes pour.
J'ai peur que ce soit pas si facile d'aller en playoffs d'ailleurs, parce que les Saints n'ont pas
la
même équipe.
Ah, d'accord, ouais.
C'est ça. Alors, on attendra de voir en playoffs s'ils peuvent gagner en playoffs, mais
si,
je me demande s'ils ont quand même pas laissé passer une belle occasion.
Bah une année où leur division justement ouais. était assez faible.
Ils avaient deux équipes en construction, des Saints qui étaient très embêtés par le Bounty Gate et qui étaient franchement pas voilà, en état de
pas
combattre.
Bon, pas, dans tête, là.
Donc dans leur division, ils étaient tranquilles, ils avaient passé une bonne saison régulière. Dans la saison, dans les playoffs, ils avaient donc des 49ers avec un quarterback nouveau, ils avaient des Seahawks avec un quarterback neuf. Toutes ces équipes seront plus fortes l'an prochain. Quasiment. Les Panthers seront en progression l'an prochain. Les Buccaneers seront en progression l'an prochain parce qu'ils commencent avec un nouveau coach. Les Saints seront plus forts l'an prochain parce qu'ils vont retrouver leur coach. J'ai peur que les Falcons aient laissé passer une grosse occasion. Et surtout si Gonzalez part, parce que
ça fait une grosse cible en moins.
Ouais, parce que Ryan perdra une de ses cibles préférées.
C'est vrai.
J'ai une petite crainte là-dessus. Mais dans tous les cas, s'ils vont en playoff, eh ben on attendra encore de voir s'ils peuvent mettre le pied sur le match. On passe à l'actu de la semaine. From Studio 3C and Rockefeller Center, this is Today in New York. L'actu de la semaine, un point pour commencer sur les coachs. On va faire un vite fait, hein, parce que tant qu'ils n'ont pas joué, de toute façon, on ne sait pas ce qu'il va. Chip Kelly, finalement, aux Eagles. Voilà, il y a deux semaines, il n'était plus là.
Finalement, il a bien caché son jeu. Ça lui a permis de reporter un joli petit contrat.
6,5 millions par an.
Voilà, bah on attend de voir si c'est le festival offensif annoncé.
Alors apparemment, il aurait pris... Alors je ne savais plus si c'était finalisé ou pas, Pat Shurmur en coordinateur offensif.
Je crois que ça a été finalisé.
Ouais, je crois que c'était finalisé. Bon. Donc ça prouve qu'apparemment, bon, ça ne va pas être si rock'n'roll que ça, parce que Shurmur, ce n'est pas une attaque de fou.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà, bon, on va voir ce que ça va donner. Ça peut être pas mal si ça redonne vraiment de l'élan et qu'il est vraiment révolutionnaire.
Le McCoy devrait être un peu content avec Pat Shurmur en,
voilà.
en coordinateur.
Donc ça va être pas mal. La grande question maintenant, c'est l'avenir de Michael Vick. Ça va être encore très intéressant au niveau du mouvement à Philadelphie dans les mois à venir. Il va falloir regarder tout ça de très près. Parce que c'est pareil. Alors apparemment, Kelly, moi je ne suis pas un expert NCA, mais apparemment, Kelly a une attaque où il aime bien faire courir le quarterback, etc. Donc Vick serait plus enclin. Mais Foles est le nouveau, mais lui est pas dans le système. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Vic coûte une fortune, il se blesse
souvent
plus vite que ma grand-mère quand elle fait un marathon. Et donc voilà, il y a beaucoup d'inconnus. Qui va garder, qui veut pas garder, quel système il va jouer. Apparemment, je pense qu'il va garder Foles et jouer un système plus classique. Mais bon, faut voir.
Je pense que ce serait la meilleure idée d'ailleurs.
Oui, bon. Bruce Arians, Arizona.
Bah écoute, c'est un drôle de pari qui se lance. Cela dit, il y a une défense pas si mal que ça à la base.
Apparemment, il rêvait d'un poste de head coach depuis longtemps.
Son problème, c'est le quarterback. Faut qu'il règle le problème quarterback, quoi. Parce que de toute façon, cette équipe passe par ça, quoi. Ouais. Donc,
c'est
son chantier.
C'est complètement le chantier. Enfin, c'est toute l'attaque. De toute façon, la ligne offensive est pas top. Le jeu au sol, Benny Wells a jamais convaincu.
On va dire que le jeu au sol, à la limite, tu peux avoir la chance de jouer un coureur potable.
Même un free agent, des fois, tu sais jamais. Ou un mec qui si, un nom signé après la draft. Des fois, il y en a qui s'en donnent pas.
C'est surtout le quarterback.
Mais le quarterback, oui, est essentiel. Mais bon, c'est un beau défi pour lui. Et puis du coup, avec ça, les 8 équipes qui ont viré leur coach ont retrouvé un coach. On vous fera un point complet sur le site. Vous avez été plusieurs à nous le demander. Promis, on va s'y mettre. L'autre news de la semaine, on n'en a pris que 2 cette semaine, mais celle-là est assez énorme. Alors, on parle pas NCAA d'habitude, mais il se présente à la draft et c'était tellement énorme qu'on pouvait pas louper ça.
Ah,
Manti Te'o et sa copine imaginaire.
Pas si imaginaire.
Alors, voilà, on parle pas beaucoup de NCAA ici. Manti Te'o, on rappelle, est un candidat à la prochaine draft. Il a joué le BCS Championship Game avec Notre-Dame. Il a pas été très bon d'ailleurs, si j'ai bien compris, dans le dernier match. Candidat au premier tour, excellent linebacker. On rappelle l'histoire. Pendant une partie de la saison, il a expliqué jouer en l'honneur de sa petite amie qui était morte d'une leucémie. Le problème, c'est que la petite amie n'existait pas. Alors, apparemment, il l'a appris mi-décembre. Il avait honte. Il l'a pas dit. Il l'a appris qu'à sa fac une vingtaine de jours plus tard, le 26 décembre. Lui, il l'aurait appris le 6 décembre.
Ouais.
Est-ce que tu crois qu'il aurait gardé ça pour lui pour se faire de la pub pour le Heisman Trophy? Parce que c'est une des accusations plus ou moins latentes contre lui.
Ah, c'est pas improbable. Il y a plein de rumeurs qui courent sur Internet. Par exemple, il y en a qui diraient que c'est pour cacher plus ou moins ses penchants sexuels réels.
Ouais, bon, ça après, c'est. Voilà,
non,
c'est
ça,
ce qu'il regarde.
Ouais, ça le regarde, mais. C'est vrai, c'est une histoire complètement dingue, surtout qu'il y a un joueur des Cardinals qui a témoigné en disant que la fille
existait. Ah oui,
il y en a un qui dit,
ouais, il y a un joueur des Cardinals qui dit qu'il l'a rencontré
dans les îles Samoa.
Bon, le plus probable est qu'elle n'existe pas, hein, selon les enquêtes qu'il y a eu.
C'est dingue cette histoire. Enfin.
Selon les enquêtes des différents sites, donc c'est Deadspin.com qui a sorti l'histoire. La nana était censée être étudiante à Stanford, ils ont cherché à Stanford, il n'y avait personne de ce nom-là, et ils ont tout cherché. Ils ont, parce qu'elle était morte, donc je ne sais plus dans quel endroit, ils ont écrémé tous les. Funérarium et des avis de décès de l'endroit, ils ont rien trouvé. Enfin, moi, ils ont fini par avouer, et donc Théo apparemment avoue qu'elle n'existait pas. Alors, si lui savait pas, c'est pareil pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que au final, il lui parlait que sur Internet.
Ouais.
Que sur Twitter. Alors, son père a dit à un moment, oui, mais il l'a rencontré mi-décembre. Théo a avoué qu'en fait, il avait menti à son père. Donc, il l'a jamais vu. Il lui parlait que sur Internet. Alors, moi, ça me paraît gros.
Oui.
Alors, je comprends qu'il y a de quoi avoir honte. Alors, pareil pour l'histoire du Iceman. Pourquoi pas? Peut-être qu'il s'est retrouvé aussi prisonnier de l'histoire. Le mec, on lui disait oui, alors pour ta copine, machin. Peut-être que même une fois qu'il le savait, il se voyait peut-être pas dire ouais, mais en fait, je me suis fait avoir. Pourquoi pas? Peut-être qu'il est resté prisonnier de l'histoire et que c'était pas volontairement pour se faire de la pub pour le Iceman. Je trouve que le plus honteux, c'est que si t'as jamais vu une fille. Ce n'est pas ta petite copine.
C'est ça que tu veux
il
dire.
Il faut surtout lui expliquer ça. Si tu n'as jamais vu la dame, ce n'est pas ta copine. Surtout, il doit avoir quel âge? 18, 19, 20 ans.
Oui, puis c'est pas comme si.
Il faut faire bisou pour que ce soit ta copine.
Non, mais surtout,
il faut lui expliquer ça.
Le problème, c'est qu'a priori, en étant joueur de football à Notre-Dame, je pense que les filles de son université.
À ce qui paraît, en plus, alors il trompait sa copine imaginaire.
Ah, en plus! Ah, bon,
c'est,
bah, voilà.
C'est ça qui est magnifique. Moi, j'ai lu qu'il trompait sa copine imaginaire.
Ouais, non, mais là, on rentre dans le.
Apparemment, il se tapait d'autres filles sur le campus.
Cela dit, pour répondre, parce que quand on avait écrit l'article sur le site, j'avais lu certains commentaires de gens qui demandaient en quoi ça peut influencer sur la draft.
Alors, c'est la grande question. On fait cette news-là voilà, en dehors de se moquer. On fait pas ça pour ça.
Un petit peu, mais.
C'est de savoir pourquoi est-ce que ça va faire baisser sa cote d'après toi.
Bah. Forcément, pour moi, ça fait preuve d'une certaine instabilité psychologique quand même.
Non, mais c'est
assez important.
Le truc, c'est de savoir. Soit il est complètement naïf et il pense que quand on a 20 ans, on est copain avec une fille sans rien faire de physique. Soit il a menti sciemment. Je sais pas c'est quoi le pire, en fait.
Je sais pas, mais le problème c'est qu'en NFL c'est quelque chose qui demande une énorme concentration mentale, la NFL, pour pas déraper avec tout ce qui passe, la médiatisation, etc. Et ça, moi je serais scout d'une équipe, joueur aussi instable, franchement ça me ferait un peu peur.
Je pense pas qu'ils vont faire venir des psychologues, mais les entretiens pré-draft avec les équipes, ça va être au pire c'est les GM qui vont faire psychologue de comptoir, mais je pense que ça va être un entretien c'est un test psychologique à chaque fois, quoi, le pauvre vieux. Jeff Ireland des Dolphins qui demandait à Dez Bryant si sa mère était une prostituée, là il va se faire plaisir, il va lui demander c'était quoi le métier de sa copine. Non mais voilà, bon, moi je pense qu'au final faudrait presque mieux pour lui qu'il ait menti. Et je vais te dire ça sur le plan où s'il est vraiment naïf à ce point-là et donc qu'il a pensé qu'il était super copain et que sa petite copine, je sais pas, mais en plus ça a duré des mois, je crois, sa relation imaginaire. Je pense que imagine s'il est vraiment naïf comme ça et qu'il a vraiment, c'est vraiment fait avoir. Le mec va être la risée de tout le vestiaire, quelle que soit l'équipe où il va être pris.
Bah,
à la limite, vaut mieux qu'il soit un mensonge, qu'il soit avec ses coéquipiers et qu'ils disent ouais, j'ai menti, j'ai essayé d'avoir tout le monde, etc. S'il gagne et qu'il est performant, après on oubliera. Tu vois, Et s'il gagne et qu'il est performant, on oubliera. S'il était hyper naïf à ce point-là, c'est super dur pour lui.
C'est vrai.
C'est hyper compliqué comme histoire. C'était une affaire un peu rigolote, donc on en a parlé un peu de manière un peu détendue. Après, moi, j'avoue que j'ai un peu mal au cœur pour lui parce que il est devenu la risée de tous les États-Unis.
Ouais.
On a vu ça un peu sur Internet juste avant d'enregistrer pour vous dire ce podcast, pour vous dire ça avec Camille, la kiss cam de la salle des Cleveland Cavaliers en NBA qui mettait des gens avec personne à côté d'eux en marquant kiss Monty Theo's girlfriend. où les Dallas Stars, par exemple, dont, en NHL, il y avait une chaise vide sur l'écran géant avec marqué Monty Theo's Girlfriend, des choses comme ça. Bon, c'est assez dur pour lui si vraiment il s'est fait avoir. Et puis après, ouais. Bon, on se moque de lui, je plaisante en disant voilà, c'est pas ta copine si tu l'as pas rencontrée, etc. Bon, après, encore une fois, s'il était sincère et qu'il pensait vraiment avoir une relation avec elle et qu'il y avait quelque chose et qu'il parlait à quelqu'un de réel, c'est super triste pour lui, en effet. Donc voilà. Et d'ailleurs, la fille, parce que le mec, en fait, c'était un mec, donc il l'a piégé, et qui utilisait des photos Facebook d'une copine de classe à lui, qui était pas au courant. Donc la fille en question, justement, est sortie dans la presse en disant qu'elle lui pardonnerait jamais et que c'était horrible ce qu'il avait fait, quoi. Bon voilà, c'est vraiment une histoire à tiroir, hein. Il y a beaucoup de choses, mais bon, encore une fois, donc ça sera à surveiller. Sa cote pour la draft pourrait baisser à cause de ça, donc sera à surveiller à ce niveau-là.
Je pense qu'il baissera même.
Donc voilà, bon, ce sera à surveiller. Le pauvre, voilà, il a pas eu de chance à ce niveau-là. Alors moi j'ai regardé quelques mock drafts, du coup il est projeté aux alentours entre 15 et 25 grosso modo au premier tour. Donc ce sera à surveiller, voir s'il tombe du premier tour par exemple, ou s'il se trompe dans le bas du premier tour, ou alors si ça change pas du tout. On en reparlera dans les podcasts pré-draft en tout cas. Voilà, on voulait faire cette petite news. On se retrouve dans quelques secondes pour vos questions.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man, if y'all ain't excited about this game, you can't get excited about no other game.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Vos questions, on vous l'a dit, pas de chronique fille, Barcelona est un peu au repos, mais reviendra, ne vous en faites pas. Jingle vos questions et puis c'est parti. Vos questions, allez, on en fait quelques-unes en plus cette semaine, on a un peu de temps avec la chronique de Philippe qui n'est pas là. Et Raphaël, et ben, c'est parti.
C'est parti, alors question de Zach. Selon vous, l'affiche Flacco contre Kaepernick est un peu moins alléchante, va-t-elle jouer sur les audiences du Super Bowl?
Alors au-delà des quarterbacks, je pense que c'est le fait que les équipes soient un peu plus petites. Green Bay avait bien marché.
L'avantage, c'est que les Niners ont quand même une certaine aura historique dans cette ligue, c'est une franchise historique.
Mais on a vu que les chiffres des finales de conférence étaient moins bons. Donc bon, l'an dernier, il y avait New York, c'est toujours énorme au niveau du marché des gens qui regardent.
Puis surtout l'année dernière, c'était New York Patriots, revanche d'il y a.
Et puis bon, c'est New York et Boston, c'est deux très gros marchés.
Voilà, donc les audiences seront moins bonnes.
Pensez-vous que Tannehill puisse être le franchise quarterback que Miami cherche depuis 10 ans? Question de Jimmy Dolphins 2.
Il a pas trop mal démarré.
C'est vrai. Dans une autre saison, on l'aurait plus regardé.
C'est vrai. Il a eu l'avantage finalement d'avancer un peu caché par les autres excellents quarterbacks rookies qui l'ont un peu protégé de la médiatisation. Maintenant, il a l'air d'être à peu près correct. Faudra voir comment il va évoluer, mais je suis pas sûr qu'ils aient obtenu le nouveau Tom Brady, mais je pense que ça sera un quarterback solide. Correct,
Impression sur Colin Kaepernick, naissance d'un grand quarterback ou un one shot?
Toujours dur à dire.
Alors moi les pronostics, vous savez.
Non mais d'autant plus là, c'est dur à dire. C'est sa première demi-saison, c'est même pas une saison.
Ce qui me fait toujours peur, de toute façon avec moi c'est quarterback qui court, c'est les blessures.
C'est vrai. Voilà,
c'est toujours ça. Après, il peut être un bon quarterback. Faut voir combien de temps. Tenir au mois Dallas l'année prochaine.
Bah oui, parce que qui d'autre?
Voilà, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Que pensez-vous de Samuel qui parle à Hikers pour le déconcentrer? Pas super fair play, et en plus c'est un ancien coéquipier.
Je trouve ça totalement normal.
Ouais, c'est ça, moi je vais dire j'adore.
Bah non, mais ça fait partie du jeu de parler, chambrer un peu l'adversaire avant d'y aller.
Excusez-moi, mais moi qui suis la NBA, j'aime bien genre le mec qui parle au gars qui va tirer ses lancers francs. Ou Rachid Wallace qui hurle ball don't lie quand il y en a un qui loupe ses lancers francs. Voilà, mais donc moi je pense que c'est sport quoi.
Bah, c'est du sport.
C'est un peu de trash talking. Voilà,
c'est du trash talking, mais en même temps, le kicker il a accès à faire dans le match si c'est juste une phrase un peu méchante qui le déconcentre. Enfin, c'est pas une excuse pour rater son kick quoi.
Et puis PS, la question la plus importante, Alain a-t-il son maillot de Sanchez déjà? vous plaisantez, je suis tombé sur un maillot Team Thibaut dans un magasin la semaine dernière, j'ai hésité, je le prends tout de suite, c'est un maillot des Jets. Donc non, j'ai pas encore, mais on l'a dit, on a un vieux maillot des Jets en stock, on va faire avec ça, c'est un maillot de Jonathan Vilma en plus, donc voilà.
C'est vrai, il y a un petit côté scandale.
Il y a un petit côté Saints en plus, bon, comme ça on a tout.
Alors, question de Paco 11. Atlanta, club maudit condamné à perdre chaque année dans l'antichambre du Super Bowl, point d'interrogation.
Bah moi, je l'ai dit, je pense que ce sera plus dur l'an prochain encore et qu'ils ont peut-être laissé passer une belle occasion. Donc,
c'est vrai. Et l'autre question, Robert Griffin, Wilson ou Luck, c'est bien, mais la véritable révélation n'est-elle pas Kaepernick, puisqu'il a pris sa place à Smith en pleine saison?
Ça, c'est vrai, c'est la révélation de l'année. Et j'entendais un journaliste, je ne sais plus c'était lequel d'ailleurs, qui disait que s'il était considéré, je crois que c'est en MLB, apparemment, où il considère rookie quand il joue pour la première fois de l'année. Et donc, que si Kaepernick avait été rookie avec les autres, il avait son mot à dire dans le rookie de l'année.
Ouais, pourquoi pas.
Entre les équipes en perte de vitesse, celles qui ont confirmé leur retour au premier plan de l'an dernier, celles qui sont en devenir à cette draft exceptionnelle, la Ligue ne va-t-elle pas changer de visage et partir pour un nouveau cycle dès l'an prochain? Question de Steel Curtain 3. J'ai envie de dire que les changements de cycle, on en parle tous les ans. Au final, ouais, bon, c'est progressif quand même.
C'est progressif. Ça va peut-être pas être aussi rapide que certains peuvent le penser maintenant.
Parce qu'il faut voir comment ils vont se débrouiller pour leur deuxième année, tous ces joueurs-là. Et puis, tout va très vite en NFL. Donc, c'est dur de parler vraiment de cycle. Après, il y a des équipes qui vont être là pour durer, style 49ers, Seahawks.
Ils sont partis, semble bien. Alors, question d'Olivier Dulac. Combien de temps reste-t-il à Tom Brady à la tête des Patriots, selon vous?
Autant qu'il voudra. C'est ça le truc avec ces quarterbacks-là. C'est que autant qu'il voudra.
Fort, maintenant, je dirais.
Il a dit qu'il voulait jouer jusqu'à 40 piges.
Ouais, ça fait quoi? Ça fait 4 saisons.
Ça fait 4 ans, ouais.
Moi, je le verrais bien faire plutôt 2-3. Aussi, je pense qu'un Super Bowl pourrait changer la donne.
Peut-être. Partir sur une victoire, ça pourrait être
un
pas
Super
mal.
Un Super Bowl pourrait changer.
Ça pourrait être pas mal. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils aient une défense.
Mais maximum 4 ans. Moi,
beaucoup de personnes annoncent le départ de Lewis comme la fin des Ravens, mais y croyez-vous vraiment? Il leur reste quand même de grandes qualités. Coureur, receveur, Flacco, pas trop mal. Ligne et cornerback assez bon. S'ils gèrent leur draft et leur effectif, je vois mal comment ils pourront ne pas être dangereux l'an prochain. Question de Ravens 96.
D'accord.
Ouais, je suis assez d'accord aussi.
D'accord. Il y a forcément une transition à passer au niveau du caractère et
c'est ça,
du, de l'état d'esprit.
Ce sera plutôt mental. Si Suggs peut prendre le relais en défense, par exemple, pour le leadership, il ne va pas y avoir trop de problèmes. Quel est votre métier entre février et août? Arrivez-vous à gagner votre vie avec Touchdown Actu? Question de Mathieu 177. Le métier de Raphaël entre février
c'est
et
étudiant.
Août, c'est toujours étudiant. Et moi, c'est toujours journaliste. Et pour ce qui est de gagner notre vie avec le site, eh bien, je dirais qu'on essaye. Ouais. On essaye.
Ouais.
Je ne donne pas plus de détails. Je reste mystérieux.
Alors, question de Captain Obvious. Comment se fait-il qu'un quarterback comme Kaepernick, excellent coureur et excellent passeur, n'ait été choisi qu'en 36e position de la draft?
Parce qu'il y avait quand même des doutes aussi sur lui. Bon, il venait d'un système qui, à l'époque, n'était pas considéré comme être très prêt pour la NFL. Donc voilà, c'était pas un scandale. Bon, il avait un gros bras qu'il avait montré au Senior Bowl. Mais après, bon, c'était pas non plus, plus une bête. Il venait pas d'une attaque pro. Donc voilà, il y avait des choses qui faisaient.
Plus, je sais pas, faudra revoir la draft à cette époque-là. Qui est pris avant? Qui est pris?
Ponder, Gabbert, Newton.
Pour le coup, c'est vrai.
Et je sais plus lequel. Je crois qu'il y en a. Non. C'était après. Il y en a 5, je crois, qui ont été pris avant. Il y avait Ponder, Gabbert, Newton. Et je ne sais plus. Et Locker. Voilà. Ponder, Gabbert, Newton, Locker. Et les Broncos avaient ce choix et ils l'ont échangé aux 49ers. Donc il aurait pu être le remplaçant de Denver. Mais à l'époque, ils avaient Horton et Thibaut. Et ça nous a donné la Thibaut Mania l'an dernier. Bon, on va pas se plaindre. Question de Spike the Glider G3. A-t-on beaucoup d'exemples de paires de linebackers aussi talentueuses que celles formées par Willis et Bowman dans l'histoire de la NFL? Oui, il y en a quand même quelques-unes. Ouais, si tu regardes les Steelers de ces dernières années avec Harrison, Timmons, Foot et je sais
même
plus qui.
Même Chicago, Urlacher Briggs.
Urlacher Briggs, qui était pas mal. Non, il y en a eu quelques-unes. Bah, les Ravens avec Suggs Lewis, c'était pas mal non plus. Il y en a eu des paires de linebackers. La Michael James a-t-il selon vous le talent pour succéder à Frank Gore quand celui-ci va commencer à décliner? On l'a dit, les coureurs, c'est assez aléatoire. En plus, la durée de vie est assez dure à prédire. Et puis, donc, Kaepernick est-il un futur élite quarterback? On en a déjà parlé pas mal de Colin Kaepernick.
Alors, question de Paco 11 à nouveau. Mon autre question est pour Alain. Ah bah tiens, c'était pas ensemble. Pourrais-tu pronostiquer les 49ers au Super Bowl, s'il te plaît?
Vous verrez ça la semaine prochaine. Non, ça a beaucoup fait rire tout le monde, mes pronostics, je sais, mais bon. Écoutez, Alain, comment expliques-tu ton incroyable difficulté à donner des bons pronostics? Mais parce que c'est la ligue est imprévisible et c'est une joie permanente renouvelée pour moi.
Cela dit, c'est vrai que c'est agréable ce sport où.
Non, mais c'est vrai, voilà, c'est un sport où on ne sait pas qui va être le champion cette année. Donc, chaque année, je veux dire, on ne sait pas qui va être le champion. Donc c'est aussi l'intérêt. Les Ravens sont-ils au courant que tu leur portes bonheur? Si oui, as-tu reçu de leur part de l'argent? Question de Mac Mackay, le bordelais. Eh bien, non, malheureusement. D'ailleurs, on parlait de vivre avec le site. Je pourrais essayer de vivre des Ravens.
Tu sais, ce serait sympa d'être invité par Ray Lewis,
c'est
tout.
Ouais, c'est ça.
Soirée de retraite.
Ah, super, je me vois bien invité par Ray Lewis. Man, tu es notre porte-bonheur, man. Tu vois, tout le temps, pendant toute la soirée, ce serait un peu dur quand même.
Alors, Bestel35, pour changer de sujet, qui est selon vous le meilleur film sur le foot US et la meilleure série?
Série, je sais pas, j'ai jamais
série
vu.
Série sur le foot US, Friday Night Lights, c'est pas mal.
Je plaide coupable, je l'ai jamais vu.
Sympa.
Et comment dire, le film, bon bah l'enfer du dimanche reste une référence.
Ouais. Mais je suis pas, de toute façon, de base, après, je suis pas fan de films sur le sport, je trouve pas que ce soit ce qu'il y a de.
Ouais, souvent c'est quand même dur à être.
Pas très réussi.
Ouais,
quoi.
Ouais, souvent c'est dur qu'il soit bon, et honnêtement, je suis pas vraiment cinéphile à la base. Voilà. Flacco a probablement gagné son nouveau contrat avec les playoffs. Si vous étiez un GM de le GM de Baltimore, vous lui offririez quoi comme contrat, durée, montant, ou plus simplement vous lui offririez le même contrat que quel autre QB dans la ligue? Question de la mouche.
Non, bah un contrat d'un franchise quarterback, quoi. Enfin, il a montré que
tu sors les 100 millions sur 5 ans, quoi. Puisque c'est le plateau, en gros, hein, Manning, Roethlisberger, etc.
Ouais, bah ouais, moi ça me semble. Tu veux prendre qui de meilleur de toute façon? Déjà, de base, t'as pas intérêt à perdre Flacco.
Non, mais dans la logique, oui, il va l'avoir et il va toucher ses 100 millions sur 5 ans.
Voilà.
Mais dans un monde meilleur où tout le monde serait payé à sa valeur, je pense qu'il vaut quand même encore un peu moins qu'un Eli et qu'un Roethlisberger et tout ça. Ouais, après, ils vont être obligés de lui donner pour le garder, je suis d'accord.
Voilà,
ou alors ils vont le taguer et puis ils le reprendront après. Mais. Ouais.
Cela dit, le taguer, même pas forcément, s'il gagne le Super Bowl, une victoire comme ça mérite aussi une récompense à quelque part, tu vois, sur
ouais,
un match
ouais,
qu'il fait.
Mais,
moi, je suis pour,
Je sais pas. Question suivante. C'était à moi?
Non, c'était à moi. T'as raison,
je ne sais plus.
T'as raison. Alors, question de Running Back 26. Peut-on comparer Matt Ryan et Peyton Manning sur le fait que Manning a mis 6 ans pour atteindre une finale de conférence? À l'époque, est-ce que Peyton Manning suscitait autant de doutes que Matt Ryan sur sa capacité à aller au Super Bowl?
Alors, j'étais pas tout le temps là, mais il en suscitait un peu aussi. Mais il était plus dominateur encore.
Ouais, plus
enfin,
impérial
c'était un,
encore,
voilà, c'était un quarterback encore plus impressionnant. Donc bon,
cela dit, maintenant, la comparaison est peut-être pas si au niveau de l'équipe qui peut dominer en saison régulière, mais qui en playoff.
Ça peut être ça. Question spéciale Super Bowl. Alain, Raphaël, Camille, quel est selon vous le plus beau Super Bowl de l'histoire et votre Super Bowl préféré? Pas forcément le même. Pour moi, le plus beau, c'est Bills Giants de 91 et mon préféré, Broncos Packers de 98. Question
alors...
de Mathieu 177.
Bon, bah,
préféré d'abord.
Je vais commencer. Le préféré, bah, le Giants Patriots de 2008.
Ouais.
Forcément.
Bah, forcément, tiens.
Forcément, hein forcément.
Forcément. Ok, Camille.
Pareil, en fait.
Pareil, le Giants Patriots. Et vous savez quoi? Je vais dire la même chose, et pourtant j'étais pas pour les Giants, mais c'est parce que c'était le premier Super Bowl du site. Voilà, souvenir perso. Et à l'époque, on l'avait commenté, j'avais été invité à le commenter sur RTL, l'équipe, donc ça avait été une très bonne soirée. Et donc voilà, très bon souvenir à ce niveau-là. Et le plus beau?
Moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, plus beau, j'ai trouvé magnifique le. Steelers Cardinals.
Ah oui, ouais.
J'avais trouvé très très beau ce Super Bowl Steelers Cardinals, vraiment un gros niveau des deux côtés.
Camille, Camille, pas d'idée. moi, je dirais que j'arrive malheureusement pas à trouver. Contact à tejandactu.com. Si vous trouvez la vidéo complète du Super Bowl de 2000, je crois, tout rond, entre les Rams et les Titans.
C'est vrai que c'était beau.
Ouais, celui-là était superbe. Voilà. C'était vraiment incroyable. Les Titans stoppaient à un yard de la end zone sur la dernière action, alors qu'ils auraient pu égaliser. Enfin, il était magnifique. Question suivante. Il y a plus de chances de gagner au loto que d'avoir sa question tirée au sort. Tu as gagné. Mais bon, je tente encore ma chance. Selon vous, lorsque Tom Brady prendra sa retraite, les Patriots rentreront-ils dans le rang comme les 49ers ou les Cowboys à leur époque, ou ce sera lorsque Belichick partira? Bravo pour citer le podcast. Question de Dokinim 3. Je serais tenté de dire que forcément, oui,
il va y avoir une petite période de transition, sauf s'ils arrivent tout de suite à piocher un peu comme les Colts viennent de faire, un quarterback qui...
Alors,
les Colts l'ont eu avec le premier tour.
Alors, des charges, il s'était pas mal débrouillé avec Matt Cassel la saison où Brady est blessé, justement, en 2008.
La défense est meilleure aussi.
La défense était un peu meilleure, mais ils font quoi, 11 victoires, 5 défaites, et ils décrochent pas les playoffs parce que ça s'était joué très haut cette année-là.
Ouais,
je crois que c'était 10 ou 11 victoires, hein. Ils en accrochent pas moins en tout cas. Donc, il y a peut-être une chance si on se base là-dessus. Après, forcément, il y aura un petit truc.
À
moins qu'ils reconstruisent très solidement la défense et que ça les maintienne à flot. Mais vu l'état actuel, c'est quand même pas le truc le plus engagé pour eux. Question suivante. Ouais, allez, on va en faire plein là, aujourd'hui. Ah oui, d'ailleurs, on est très loin dans le timing. Il va peut-être falloir que ce soit la dernière alors.
Bon, alors, question de Jeff The One. Qu'est-ce qu'un quarterback élite pour vous? Avoir gagné au moins un Super Bowl? Avoir un rating supérieur à 90-95? Voilà, c'est sa question.
Un peu de tout ça, quoi. Il y a l'aspect clutch. En fait, faut que quand tu le regardes pendant un match, tu te dises, ok, il peut prendre le match en main, il peut le gagner.
Mais voilà. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. C'est que pour moi, il n'y a pas de critère défini pour avoir un... C'est plus une impression, un ressenti que tu as
face à un
comme
diraient les Black Eyed Peas, I got a feeling. Et c'est exactement comme ça que ça se joue pour un quarterback élite.
Et lui, il précisait que selon lui, il n'y a dans la ligue comme quarterback élite, il y a Brady, Breeze, Peyton Manning et Rodgers. Pour lui, ce sont les seuls quarterback élite.
Ça colle assez bien.
Et il reproche notamment à Ben Roethlisberger et Eli Manning de faire des grandes choses, mais de manquer de régularité à très haut niveau.
Oui, on pourrait ajouter la régularité à ce niveau-là, ça peut être,
voilà,
après, ça peut être pas mal.
Voilà, après, je pense chacun un peu ses critères quoi, pour quarterback élite.
Allez, j'en prends vite fait au hasard. Pour finir, allez, vite fait. Y a-t-il deux frères qui se sont affrontés au Super Bowl, joueur ou coach? Je ne crois pas. C'est une première. Les seuls qu'on fait tous les deux le Super Bowl, mais pas en même temps, c'est les frères Manning et les frères Barber. Rondé, d'accord. Barber et Tiki Barber. Par contre, Tiki, c'était avec quoi? Parce qu'il n'était pas là contre les Giants pour jouer. Alors, j'ai un peu de... Je sais pas, j'ai trouvé ça, mais... Bon, et puis après, voilà, on a plus le temps. Allons-y, Pro Bowl de la mort après Jingle. Terrell Suggs a une petite musique hawaïenne sympa, et puis Terrell Suggs qui hurle derrière. Amusez-vous bien au Pro Bowl, dit-il aux Patriots. Le Pro Bowl, le Pro Bowl, soyons honnêtes, chers auditeurs. Je vous prends à part.
C'est
entre
nous enchante.
Le Pro Bowl, c'est nul. Bon, honnêtement, on peut le dire. On est d'accord, hein, la plupart des joueurs sont forfaits. Je crois que le dernier qui a été sélectionné, c'est Kyle Rudolph. Hein, voilà, pour vous situer. Kyle Rudolph est un Pro Bowler NFC aujourd'hui. Bon. Voilà. Donc,
d'ailleurs,
bon, il est pas mauvais, hein, c'est pas pour être méchant, mais c'est plus vraiment exclusif d'être Pro Bowler.
Est-ce que t'as vu autant de remplaçants? Il me semble que cette année c'est une hécatombe totale.
Bon, là il y en a énormément qui tombent parce qu'il y a les qualifiés pour, il y avait beaucoup de qualifiés pour le Pro Bowl chez les 49ers et les Ravens. Donc bon. Enfin bon, la plupart des joueurs sont forfaits, il n'y a pas de défense, pas le droit de blitzer, aucune intensité. Voilà le Pro Bowl. Nous, on a eu une idée, le Pro Bowl de la mort. Le principe est simple, on sélectionne les pires titulaires de la ligue pour un match du pire. Plutôt qu'à Hawaï, on les envoie dans la neige sur la pelouse du stade des Redskins, par exemple.
Sibérie directement, autant se marrer.
La pelouse du stade des Redskins, c'est déjà assez dur. Et puis on les fait jouer à fond. Ceux qui survivent et qui gagnent ont droit à une nouvelle chance l'an prochain en NFL. Ça vous va? Nous, oui. Alors, on a fait nos équipes. Raphaël, est-ce que tu es prêt?
Ouais.
Conférence AFC, pour commencer, quarterback, je sais qui tu as mis. Allez.
sans aucune surprise, Marc Sanchez.
Bon, Marc Sanchez, quarterback de l'AFC, pour moi également.
Je pense que ça se passe de commenter.
On est d'accord. Ligne offensive.
Celle des Colts, malheureusement, qui est très très en difficulté, ne pas protéger le petit bijou qui est Andrew Luck, c'est bien dommage.
Je suis d'accord. Alors, tiens, je vais te laisser faire ton équipe en entier okay. Et je ferai la mienne après. Donc, ligne offensive des Colts, coureur.
Ryan Matthews des Chargers, qui pour moi, qui n'arrive pas à exploser,
bonne déception,
les titulaires,
ouais.
Mais enfin.
Alors, on vous précise, on a dit les pires titulaires, pour que ce soit un peu marrant, on a pris aussi des mecs qui sont des déceptions alors ouais, qu'on les attendait ça. Ou quoi, sinon on aurait pris le pire statistique et des mecs que personne connaît, ça aurait pas été très drôle.
Oui, non, je suis bien d'accord.
Donc, Ryan Matthews, receveur.
Receveur, alors Kenny Britt des Titans, qui pareil a pour moi un certain talent, mais entre
potentiel,
ses
ouais,
affaires avec la police, ses blessures,
c'est pas mal,
c'est
pas
une cata.
Et puis un deuxième
Deuxième receveur, j'ai Greg Little des Browns, parce que j'ai eu à faire le résumé deux fois des Browns cette saison.
C'est une drop machine un peu.
Et ouais, Greg ouais. Little, je l'ai vu dropper à des reprises.
Et puis tight end, ça c'était pas facile à trouver.
Ouais, tight end, bah pareil, j'ai mis Evan Moore des Browns, parce que je l'ai vu pas mal dropper les quelques matchs que j'ai vus.
Alors, mon attaque dans l'AFC, c'était Sanchez aussi, la ligne des Colts aussi, forcément. Mmh. Les coureurs, moi j'ai mis Rashard Mednenhall, parce qu'à une époque il était bon, maintenant il l'est plus du tout. Mmh. Alors, je sais qu'il a été blessé, mais quand on voit ce que Peterson a fait, hein, il a pas d'excuse. Receveur, alors j'avais la doublette Steve Breston, John Baldwin des Chiefs. Qui était attendu à l'époque chez les Cardinals, c'est c'était vrai. Pas mauvais. Tyden Lee Smith des Bills, il a joué 16 matchs, il a capté 4 ballons. Voilà. Donc bon, ils ont quand même une attaque un peu portée vers la passe, donc j'en attendais mieux. La défense, toujours dans l'AFC.
Alors pour la ligne défensive, j'ai mis les Raiders parce qu'ils font peur à personne, il y a souvent très peu de pression.
Ouais, Richard Seymour a été blessé en plus.
Quand on a un emblème de pirate sur le casque, je sais pas, faut faire un peu peur, quoi, et c'est plus le cas.
Linebacker,
j'ai le groupe des Titans, je les ai vus souvent se faire trouer en milieu de terrain à la course, donc ce groupe-là.
Couverture aérienne.
Les Bills, par rapport aux nombreuses valises qui se sont prises là plusieurs semaines, une cata.
Et puis le kicker.
Le kicker, Dan Carpenter des Dolphins.
Ça marche. La défense, pour moi, la ligne, j'ai pris les Chiefs. Pour le côté vraiment déception, Glenn Dorsey, Tyson Jackson, qui étaient des gros choix de draft, dont Taripo aussi, qui n'ont rien fait. Les linebackers, alors j'ai pas pris un groupe total, j'en ai pris deux différents, tu vas comprendre pourquoi, on va bien se marrer. Bart Scott avec Rolando McClain.
Ah oui, d'accord.
Alors là, ça va friter, quoi, tu vois. Je pense qu'ils vont se plaquer entre eux d'ici la fin du match.
Ça
va être à mort, quoi. Et puis la couverture aérienne des Patriots, hein, ils prennent encore des camions de yard, il y a des progrès. Et le kicker, Dan Carpenter, également pour moi, il y a moins de mauvais kickers dans l'AFC.
Ah oui. Pour la NFC, j'avais une belle liste.
J'ai recherché, j'avais une grosse liste NFC aussi, ouais. Dans la NFC, on est parti en attaque, hein, quarterback.
Alors, ça va être dur, mais j'ai mis Alex Smith. Parce que c'est la loose totale. C'est la loose totale. Le mec, il est titulaire.
Il était super bon avant d'être blessé.
Mais non, mais attends. Il est titulaire. Il a une petite blessure. Hop, sur le banc, mon gars, va le réchauffer.
C'est pas de sa faute.
Et son équipe va au Super Bowl sans lui. C'est la loose totale.
Je trouve
c'est
super dur. Alors moi, j'avais deux choix. Je te laisse finir ton attaque. Vas-y.
Okay.
Coureur.
Coureur, Michael Lechour des Lions. Enfin. Je sais pas, il arrive pas à donner une autre dimension à cette attaque.
J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de Lions dans cette sélection NFC. Ligne offensive.
Ligne offensive, bah c'est le Descartes, hein, ça se passe de commentaires vu la saison.
58 sacs autorisés.
Voilà.
Receveur.
Receveur, j'ai Jerome Simpson des Vikings qui m'a bien déçu quand il est parti des Bengals. Je m'attendais à ce qu'il fasse un peu mieux.
Il explose un peu, ouais.
Et ben là, il n'a pas réussi. Et en receveur numéro 2, j'ai celui que tu veux chez les Lions, en fait.
C'est n'importe lequel.
Qui n'arrive pas, alors que Calvin Johnson a 3 joueurs sur le dos, qui n'arrive pas.
Titus Young, légendaire, qui a déclaré quand même hier, si j'ai pas le ballon, je préfère arrêter le football.
Ouais, bah écoute,
il est magnifique. Tight end.
Tight end, j'ai le pauvre Todd Heap des Cardinals qui était aussi.
Bon, il est en fin
de
carrière, ouais, le pauvre. Alors pour moi en attaque, quarterback. Alors j'avais un choix, Ryan Lindley ou Michael Vick. Bon, Ryan Lindley, c'est parce que vraiment il avait l'air à la rue, pauvre vieux. Et puis Michael Vick, c'était quand même transformé en machine à perte de balles aussi. Ligne offensive, les Cardinals. Bon, alors s'il faut en choisir qui, on va dire Vick, allez. Ligne offensive, les Cardinals. Coureur, j'avais Mark Ingram des Saints qui m'a pas mal déçu depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Receveur, alors là c'est pareil, j'ai joué le fight. Attention, Titus Young d'un côté, Percy Harvin de l'autre. Faites vos jeux, quoi. Et ces deux-là vont s'aligner et vont parfois croiser Bart Scott et Rolando McClain en face, je rappelle. Hein, parce que Percy Harvin, on rappelle, il frappait ses coachs à la fac et tout. Enfin, c'est un ouf. Tyden, Jeff King des Cardinals, 16 matchs, 12 titulaires, 17 réceptions, 0 touchdown. Pourtant, vu les quarterbacks qu'il y avait, les Tyden, ils auraient pu aider, quoi. Donc, c'était pour moi. Défense.
Défense, j'ai la... Alors, petite déception pour le coup, la ligne défensive des Buccaneers qui a mis très bien pression, commencé. Ouais. Ils ont très bien défendu contre la course cette saison, mais alors pour mettre la pression et le pass rush sur le quarterback, ça a été une cata. D'ailleurs, ils se sont pris beaucoup de yards à la passe, quoi.
C'est vrai. Linebacker.
En linebacker, alors là, c'est plus personnel, j'ai mis les Giants. Parce que toute la saison, il y a eu
J'ai pas osé les mettre, j'y ai pensé. Mais...
Toute la saison, il y a eu des problèmes pour arrêter la course, etc. Et quand ton meilleur linebacker, c'est Chase Blackburn.
Oui, ça fait mal. Ouais.
Ce mec-là doit être remplaçant, quoi.
La couverture aérienne.
J'ai celle des Saints qui a fait une année porte ouverte.
C'est vrai.
Un peu saloon, on accueille qui vous voulez à Nouvelle-Orléans.
Et puis le kicker.
Et le kicker, alors là.
Ah,
là,
c'est dur. Hein.
Impossible de départager Mason Crosby ou David Akers.
Ben, alors, ouais. Alors, ça, je suis d'accord.
Je vais dire Akers parce qu'il joue sous le soleil.
C'est vrai.
C'est moins difficile c'est peut-être vrai. Que le froid de Green Bay.
Alors en défense, moi j'avais la ligne défensive de Détroit qui est honteusement sous-performante par rapport à son potentiel. Les linebackers des Buccaneers parce que j'ai pas trouvé grand monde. la couverture aérienne des Buccaneers aussi parce que je trouve qu'ils sont aussi bien fait trouver toute la saison.
Ah, oui.
Et puis le kicker, ouais pareil, dilemme cornélien. Pareil, David Akers parce qu'il est allé le plus loin au final en étant mauvais. C'est ça la prouesse.
Il a raté un coup de pied face au Falcons.
Le poteau, fallait aller le chercher quand même.
Ouais.
Et il a déclaré après, je suis passé à quelques centimètres de faire une journée parfaite. Ça s'invente pas. Je crois qu'il a dit ça, hein. J'ai cru dire ça aujourd'hui.
Ah, c'est
magnifique. Voilà pour notre Pro Bowl de la mort. Donc on espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça marrant. On s'est imaginé ça.
Vous pouvez faire le vote.
Voilà,
hein,
essayez de vous le faire sur Madden par exemple. Ça peut être pas mal. Et on trouvait que le principe était quand même vachement plus drôle. On les fait jouer pour leur place en NFL.
Ouais.
Comme ça, ils sont motivés. On a un vrai Pro Bowl parce que là, sinon, ce que vous allez regarder dimanche, c'est pas du foot.
Si vous le regardez.
Jingle. Si vous le regardez. Jingle. Et puis teasing du Super Bowl. In a slot, and they're going back to Bolden for the touchdown! Brother Cup des Red Hot pour introduire le super Hard Bowl entre les frérots. Oui, comme l'an dernier, nous avons nos 5 bonnes raisons pour supporter chaque équipe. Donc, dans l'ordre d'importance ou pas?
Ouais.
Ouais, tu les as mis en ordre d'importance. Bon, ça marche. Donc, c'est notre petit teasing.
Donc, on va de la moins importante à la plus importante.
Ouais. C'est notre petit teasing pour le Super Bowl. On le rappelle, la semaine prochaine, émission spéciale Super Bowl. Intégralement consacré au match. On fera une preview en profondeur, on prendra encore vos questions. Ce sera la grosse preview. En attendant, donc, on en parle un petit peu, on vous ouvre l'appétit avec ça. 5 bonnes raisons de supporter les Baltimore Ravens par Raphaël Masmejean. C'est parti.
Alors, en 5e, j'ai mis celle qui me semble la plus évidente. Donner une bague à des joueurs comme Ray Lewis, Ed Reed, Terrell Suggs, qui sont plutôt jeunes, qui n'ont plus forcément beaucoup d'occasions, surtout pour Ray Lewis. Je trouve ça sympa.
Pas mal. Numéro 4.
Ah d'accord.
Vas-y, je te laisse enchaîner.
Alors numéro 4 pour le côté outsider que moi j'aime beaucoup. Ils ont fait toutes les playoffs en mode pas favori à aucun des matchs, outsider.
Et on rappelle, Las Vegas les donne
encore
un outsider.
Ouais. Voilà. Donc si vous aimez bien un peu le David contre Goliath, eh ben allez-y quoi. C'est les Ravens qu'il faut supporter. Troisième. Parce que ça me ferait bien rire que Joe Flacco remporte une bague après 7-10 quarterback élite en début de saison, tout
c'est
comme
vrai.
Manning l'avait fait la saison
c'est
d'avant.
Vrai. Ouais, très
donc je me
bonheur.
Dis que si ça marche, ça se trouve l'an prochain, John
Skelton
va dire qu'il est quarterback élite
et
les Cardinals.
Nouvelle recette.
Voilà, tu vois, je me dis c'est peut-être un porte-bonheur.
Numéro 2.
Numéro 2, faut supporter les Ravens parce que vous êtes sûr de gagner de l'argent si Alain parie contre eux. Voilà.
Encore une fois, écoutez bien la semaine prochaine pour mon pari. Et
donc,
numéro 1.
Numéro 1, parce que il faut supporter les Ravens parce que vous avez tous envie de voir la tête de Jim Harbaugh s'il perd le Super Bowl. Vous en avez tous envie. La colère, la rage sur ses yeux, je sais.
Vous avez envie de voir la tête de Ray Lewis aussi s'il gagne.
Ouais,
vous
voilà.
Hystérique. Ça marche. Les 5 raisons maintenant pour supporter les 49ers. Numéro 5 pour moi, pour l'histoire. Ça ferait 6 Super Bowl pour San Francisco. Ils égaleraient les Steelers en tête du classement.
6 sur 6 en plus.
Et 6 sur 6 au Super Bowl. Ils égaleraient donc les Steelers au classement des équipes les plus titrées. Numéro 4. Pour que Randy Moss décroche enfin une bague pour aller avec sa carrière de Hall of Famer, on avait oublié qu'il y aurait aussi lui qui est toujours là. Et mais aussi pour Frank Gore et Vernon Davis, faut quand même le dire, parce qu'eux, ils étaient là quand les 49ers gagnaient pas. Numéro 3, pour qu'un quarterback capable de courir gagne enfin le Super Bowl, que tout le monde pense que c'est une révolution et se rue sur les quarterbacks coureurs pendant les 3 prochaines années et que ça marche pas. Numéro 2, pour que les gens qui iront à Londres l'an prochain voient les champions en titre.
C'est vrai,
quand
c'est
même. Je crois que ce serait une première hein, qu'on ait un champion en titre à Londres. Et puis pour numéro 1, eh ben, on s'était pas concerté, tu m'as presque pris le truc. Numéro 1, pour pas que Jim Harbaugh devienne dingue. Parce que franchement, j'ai peur pour ses nerfs. Vous avez vu dans l'état où il était pour un challenge perdu, imaginez pour un Super Bowl perdu.
Imagine la réception qui fait gagner le Super Bowl au Ravens, qui est pas totalement légal. Ah ouais, le truc. Imagine la tête, il met le feu au stade.
Non, j'ai vraiment trop peur. Je pense qu'il met le feu à Ray Lewis carrément. Enfin, ce serait vraiment un truc terrible quoi. Donc, si Ray Lewis se met à danser devant lui après en plus, alors là, non, je vous jure. Je pense qu'il y a un truc quoi. Il y a une attaque sérieuse quoi. Voilà, bon, pour nos 5 raisons de supporter chaque équipe, on fera quelque chose de plus sérieux, un petit peu plus sérieux la semaine prochaine, où on détaillera donc forcément cette opposition en détail. Voilà pour ce podcast qu'on va terminer comme d'habitude avec le 2 minute drill. C'est parti Raphaël, le très dirty Richie Incognito a été appelé pour le Pro Bowl, la preuve que tout le monde peut venir. Est-ce que tu penses qu'il va jouer dur et énerver tout le monde?
Bah écoute, si au moins il y a une bagarre, on va avoir de quoi se divertir.
Enfin quelque chose.
Terrell Suggs pense que les Patriots sont des connards arrogants. Je pense qu'il a raison.
Je pense que ça aurait été plus classe de pas le dire, mais c'est pas franchement à son honneur non plus de l'exprimer comme ça. Un méga contrat sera en préparation pour Matt Ryan après la finale de conférence. Tu penses qu'il le mérite?
Des petits doutes, mais c'est la ligue, c'est tourné vers les quarterbacks.
Tu donnes 100 millions à Flacco, tu donnes 100 millions à lui.
Ouais,
hein.
Oui. Tous les postes de coach sont pourvus et John Gruden n'est pas signé. Est-ce que tu penses qu'on le reverra un jour?
Je commence à douter, il n'y a pas eu de demande. Pourtant, il avait l'air d'appeler un peu du pied et il ne s'est rien passé. Aaron Rodgers pense que la read option ne marchera plus dans 10 ans, d'accord ou pas?
D'accord avec lui, Aaron Rodgers est un visionnaire. Wes Welker est libre à la fin de l'année. Est-ce que tu penses qu'il sera toujours chez les Pats l'an prochain?
Je sais pas, moi je voudrais savoir où va sa femme en fait, surtout, c'est le plus important. Vous pouvez voir ses aventures sur le site. Un joueur des Raiders accuse son coach d'avoir saboté le plan de jeu du Super Bowl 2002 pour faire exprès de perdre. Est-ce que tu crois que c'est possible à ce niveau de la compétition?
Ça me paraît assez dingue quoi.
Le mec qui fait exprès de perdre le Super Bowl parce qu'il détestait soi-disant les Raiders, ça me paraît aussi énorme, alors que c'en était le coach et qu'il les a quand même amenés jusqu'au Super Bowl.
Ouais, je trouve ça étrange.
S'il les détestait, il aurait peut-être saboté un peu avant, non?
C'est encore pire pour les fans, tu sabotes au Super Bowl.
C'est quand même un peu étrange. Bon, l'accusation, c'est que comme c'était son pote, justement, John Gruden, qui coachait en face, bon, c'est quand même un peu étrange. Voilà, c'est comme ça qu'on termine le podcast Touchdown Actu, épisode numéro 47. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour le 48e numéro du podcast. Ce sera donc un spécial Super Bowl. On rappelle aussi que si vous voulez faire vos plans pour la soirée du Super Bowl, Corcoran's Bar, Porte des Lilas, soirée ESPN America en partenariat avec Touchdown Actu. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Il y aura plein de choses et des surprises. Voilà, nous on sera là aussi. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos remarques sur l'émission podcast@touchdownactu.com. En attendant, comme d'habitude, toutes les news, les résultats et l'actu de la NFL en général, ça se passe sur touchdownactu.com. Bonne semaine à tous, bon Pro Bowl à ceux qui auront le courage de le regarder. Ouais. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Stop it. It grows and it grows and it grows. Steal. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.